Bonjour. Je suis heureuse ce matin de pouvoir vous présenter quelques éléments de mes années au Laos. J'ai été envoyée par le comité de mission Mennonite au Laos pendant presque 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelques éléments. Je vais essayer de vous présenter quelques spécificités du Laos, du travail de développement communautaire et vous parler aussi de l'église évangélique au Laos. Mais le plus important pour moi, c'est maintenant de vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté par la prière, le soutien financier et votre intérêt pour ce que j'ai vécu tout au long de ces années. L'expérience est loin d'avoir été facile, mais elle est très enrichissante et votre soutien en a été un élément essentiel. Et c'est très important pour moi de redire la place de mon église d'envoi. J'espère que vous considérez ça comme un encouragement. Tout au long de ces 4 ans, j'ai été particulièrement touchée par les personnes qui prient chaque jour pour les envoyer du CMMF dans le monde et du SFE au Laos. Je vais essayer de vous transmettre un peu de l'ambiance du Laos et pour ça, j'ai choisi de vous montrer un extrait d'une vidéo qui est un petit film éducatif que nous avons utilisé dans les villages qui montre l'ambiance dans un village là-haut, dans une famille là-haut. La série, c'est une courte série qui parle des aspects de la nutrition, qui est un sujet sur lequel nous on a travaillé. Le village où ça se passe, que vous verrez dans le film, ressemble plutôt à un village qui est proche de Vientiane ou de la frontière du Mekong. C'est-à-dire que ce sont des villages qui sont un peu plus riches que les villages dans lesquels le projet de CAPE a travaillé. La famille qui est dans cette vidéo est censée représenter un modèle de développement. Le mari et la femme ont beaucoup de connaissances et ils réfléchissent comment améliorer leur alimentation, y compris leur production agricole, en s'appuyant à la fois sur les traditions et sur des nouvelles idées. Et c'est une bonne chose dans cet enseignement d'insister sur la diversité végétale locale qui est caractéristique du Laos, mais pas toujours facile à valoriser et à préserver. La vidéo va être en lao avec des sous-titres en anglais. Je vais essayer de traduire l'essentiel en français. Voilà, donc j'espère que ça vous a un peu donné plus une idée de comment c'est au quotidien dans une famille là-haut, et l'alimentation c'est toujours une partie centrale de la vie. Maintenant je voudrais revenir avec vous sur le texte dans Luc qui a été lu tout à l'heure. Je vais relire la partie que Jésus prononce. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc c'est un texte qui est dans l'Évangile de Luc et situé comme une introduction au ministère de Jésus. Et donc à cette place-là, il résume et il annonce ce que Jésus va faire et qui il est. Et donc c'est ce que Jésus a accompli, a complètement réalisé il y a 2000 ans. Donc en lisant la Bible aujourd'hui, on connaît à la fois la prophétie qui a été écrite par Ésaïe en 700, son accomplissement au temps de Jésus et ce que nous vivons maintenant. Alors, dans ce court texte, il y a deux fois le mot, le thème de la délivrance, de la liberté qui revient. Et je voudrais vous parler juste brièvement dans le contexte du Laos de ce que j'ai vécu. Justement, je suis particulièrement touchée par l'accentuation sur la libération. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé moi personnellement, qui, Je vous partage juste comme je l'ai vécu. Donc c'est un endroit où j'ai vécu, où j'ai observé l'oppression dans la société qui s'explique et se maintient par tout un historique, toute l'histoire. La misère, une pauvreté sans ressources, sans espoir, dans quelques familles, parfois dans des villages entiers aussi. Et les ténèbres spirituelles, et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise pour comprendre et pour en parler. Mais voilà, j'ai vécu ça et j'ai vécu à côté de choses qui sont des liens serrés qui empêchent d'aller dans une meilleure direction pour toute une communauté. Alors, je vais pas rentrer dans des détails de ce que je comprends. Simplement, je crois que le projet de Dieu pour chacun d'entre nous est d'être en paix avec nous-mêmes, avec lui, avec les autres et avec notre environnement. Et tout ce qui nous en empêche est une barrière à notre liberté, que ce soit des croyances fausses ou tout un système ou la peur. Cela empêche toute liberté d'action. Et je vous renvoie à la prédication de Pascal Keller en décembre sur ce thème. Il avait cité en particulier Galates 5, verset 1, « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. »
Jusqu'à presque décembre. Et...
Merci. Donc, j'ai encore un dernier point. Donc, je parlais tout à l'heure de libération et j'ai pas d'histoire incroyable de libération à vous raconter. Mais ce que j'ai vu, c'est que le royaume de Dieu avance et je peux vous le raconter en fait à travers l'histoire de l'église évangélique au Laos. Donc, si on remonte dans le temps, dans le sud du Laos, les premiers missionnaires qui sont venus, c'était des Suisses francophones en 1902. Et jusqu'en 1975, la Suisse a continué d'envoyer de nombreuses personnes qui ont pu à la fois œuvrer à la traduction de la Bible en Lao, commencer à faire des disciples et former des formateurs, et s'investir aussi dans les besoins médicaux, en particulier dans les villages de lépreux. Dans le même temps, dans le nord du Laos, c'était des Suédois et des Américains qui ont commencé à apporter l'évangile. Les Suisses avaient vraiment à cœur que l'église Lao puisse être indépendante, parce que c'était leur mode de fonctionnement aussi en tant qu'église. Et en 1975, quand le pays a fermé ses portes après la révolution, l'église Lao a continué à se développer par elle-même. Et dans les conditions imposées par le gouvernement, c'était clairement par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, il semble que l'église soit vivante jusqu'à dans les provinces les plus fermées. Et dans le sud actuellement, les provinces les plus fermées, c'est Sekong, la province où j'étais, et Saravan, la province à côté. Dans le district de Tateng, où j'ai vécu et travaillé, il n'y a aucune église là-haut officielle, mais il y a un lieu de rassemblement qui est connu et toléré. Alors bien sûr, chaque culte est surveillé, et par exemple, il est interdit à tout étranger de parler en public. Ça, c'est une loi au Laos en général. Donc une manière d'aider, c'est par exemple de faire passer des livres qui sont préparés en Thaïlande, des traductions de Bible, de livres de chants, d'explications. Mais même ça, même juste passer des livres, c'est pas sûr dans le district. Quand je dis c'est pas sûr, c'est-à-dire que les conséquences, si jamais les autorités s'en mêlent, ces conséquences, elles sont pas claires. On sait pas ce qui se passerait, à la fois pour le projet, même pour le SFE au niveau du Laos, et ni surtout pour les chrétiens locaux. Et donc, suite à un historique qui est assez lourd dans ce projet de Tateng, l'attitude générale a été récemment de ne rien faire de provoquant. C'est différent dans d'autres parties du Laos. C'est différent à d'autres moments. Et cependant, même dans ce contexte, il a été possible de rencontrer des chrétiens locaux et de nous encourager mutuellement, de connaître des noms et des visages des personnes et de prier pour elles. Et surtout dans le travail quotidien, de garder les personnes les plus vulnérables au centre du projet. Ça n'en a pas forcément l'air comme ça, mais c'est une attitude qui est à contre-courant et qui interpelle. Parce qu'il est beaucoup plus rationnel pour un développement à court terme, pour des résultats visibles immédiats, de se concentrer sur le développement des familles ou des personnes qui sont déjà un peu plus avancées et qui ont des ressources. Mais encore en fin d'année, nous avons entendu nos autorités locales se plaindre de l'augmentation du nombre de chrétiens dans le district. Nous n'avons pas les moyens de confirmer les chiffres. Et nous savons aussi que de nombreuses personnes ou des familles retournent à leurs anciennes pratiques rapidement. Mais quelque part, c'est un fruit du travail missionnaire depuis 1902. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné de l'observer et de vivre ce moment. Voilà, ma conclusion, c'est que j'ai rencontré, dans mon expérience limitée de la culture là-haut, des choses belles que je voudrais garder, comme la diversité alimentaire végétale, la valeur de la communauté, des amitiés, des choses qui sont terribles et laides, et contre lesquelles je veux rester révoltée et compter sur Dieu qui restaure tout. Et des choses normales, sauf que la normalité au Laos, c'est très différent de ma normalité d'avant, à laquelle je retourne maintenant, en n'étant plus très sûre de beaucoup de choses. Avant de partir vers la France, ma collègue américaine avec qui j'ai passé ces derniers 6 mois m'a donné les paroles de l'Ecclésiaste « Il y a un temps pour toutes choses » à méditer pour m'aider à traverser cette transition de la fin d'une tranche de ma vie vers un avenir encore inconnu. Dans ce temps particulier, mon refuge est en Dieu, comme avant et avec ce que j'ai choisi de garder de cette période. Et je voudrais encore simplement prier maintenant. Je vais lire une prière. Père, on m'a dit qu'il fallait de la bonne terre pour que le grain se lève, qu'il porte du fruit et offre sa vie au ciel étonné. On m'a dit qu'il fallait que ma vie soit pure et belle, pour qu'elle soit un don digne de ta sainteté. On m'a dit qu'il fallait que je sois riche d'espérance et nourrie de pureté pour entreapercevoir l'éclat de ta face. Mais je découvre que sur le rocher tenace de mon humanité, tu as fait pousser les lichens de l'espérance, les mousses de ta paix, les fleurs de la joie. Merci.